Transmission, une émission proposée par Isabelle de Mailleux.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission. Qu'ai-je à transmettre aux autres de mon vécu et quelle est la mission que je propose à chacun ? Aujourd'hui, nous avons Stéphane Fumière à la technique, Isabelle de Mailleux au micro et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Thierry Guillemot. Bonjour docteur.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Mais très bien.
Très bien. Alors vous êtes médecin généraliste, acupuncteur et auriculothérapeute.
Oui.
Alors après 20 ans de médecine générale, vous vous êtes intéressé à l'acupuncture. D'où est née cette envie de changement de direction thérapeutique ?
Oui, je dirais qu'effectivement après 20 ans de médecine, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la question. On a vu beaucoup de choses, on a vu les pathologies courantes, on a vu de temps en temps l'une ou l'autre maladie un petit peu plus rare. Et j'étais surtout, disons que je me sentais un petit peu étriqué dans mes capacités thérapeutiques, prescrivant toujours les mêmes médicaments et donc aussi leurs effets secondaires. Et donc j'ai souhaité m'orienter vers quelque chose d'autre et je pense que c'est l'acupuncture qui est venue frapper à ma porte.
Et justement, vous dites frapper à votre porte. Comment est-ce que vous avez fait la rencontre avec l'acupuncture ?
Eh bien, d'abord, en tant que patient moi-même, je m'étais fait une épicondylite, c'est-à-dire un tennis elbow, pas au tennis, en ponçant des meubles de jardin. Et je ne m'en départissais pas. Et donc, je suis allé voir un médecin donc, qui pratiquait l'acupuncture, qui allait devenir plus tard l'un de mes professeurs. Et donc, qui m'a tiré d'affaire en 7 ou 8 séances.
Ah oui.
Donc je me suis dit, l'acupuncture, ça marche pour moi, donc ça devrait aussi pouvoir marcher pour les autres. Et c'est comme ça que j'ai souhaité m'inscrire donc au cours d'acupuncture.
D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas du tout en quoi consiste l'acupuncture, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
En quelques mots, c'est un peu difficile d'en parler, mais je vais essayer de me livrer à cet exercice périlleux. J'ai envie de dire que l'acupuncture, c'est un peu un moyen de booster nos mécanismes d'adaptation, de réparation, de cicatrisation, de guérison naturelle. Lorsqu'on place une aiguille à un point bien précis de l'organisme, on sait qu'on va parler au cerveau. On va lui parler à partir donc des récepteurs sous-cutanés de la peau, à partir des fascias qui sont ces tissus qui unissent les différentes parties de l'organisme et qui courent le long des muscles. Et donc, on va envoyer un message via le système nerveux sensitif, donc le nerf, qui, ça va arriver jusqu'à la moelle. Et de la moelle, le signal va aller jusqu'au cerveau. Le cerveau va donc être averti qu'il se passe quelque chose à la périphérie du corps et va donc envoyer une cavalerie de différents messagers, neurotransmetteurs, molécules calmant la douleur, molécules permettant la relaxation musculaire, d'où l'effet favorable de l'acupuncture dans toute une série d'indications.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on soigne avec l'acupuncture ?
Alors, je dirais que le panel est très large. Essentiellement, ce qu'on reçoit en consultation d'acupuncture, ce sont des patients qui ont des douleurs de l'appareil ostéo-articulaire, musculaire, tendineux. C'est grosso modo 80% des demandes en acupuncture. Dans les 20 autres pourcents, c'est plutôt des pathologies, disons, générales, comme des troubles du sommeil, de l'anxiété, des dépressions légères à modérées, des troubles fonctionnels digestifs, par exemple, qui répondent eux aussi très bien à l'acupuncture.
D'accord. Et est-ce que dans votre pratique, vous combinez la médecine générale et la médecine chinoise ? Est-ce que ça peut être complémentaire ?
Alors, tout à fait. Je pense qu'on ne doit jamais oublier qu'ici, en Belgique, en Occident, on est d'abord des médecins formés à l'occidental. On ne doit pas oublier l'héritage qu'on a reçu. Mais on vient saupoudrer cette connaissance avec, le concept de médecine chinoise qui permet d'avoir un éclairage probablement plus global, plus holistique. pour utiliser un mot à la mode. Et donc, avec cette double vision, il est possible d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des phénomènes, des problèmes, des douleurs et des différentes maladies.
Et on peut aller plus loin. Est-ce qu'il y a aussi un côté limitant à cette technique ?
Oui, c'est très important effectivement de ne pas donner non plus de faux espoirs aux patients. Il est évident que dans des situations où précisément les mécanismes de défense et de réparation naturelle dont je parlais tout à l'heure sont dépassés, hein, c'est tout ce qui se passe dans le cadre d'une lésion. Quand il y a lésion des tissus, eh bien c'est une sorte d'aveu d'impuissance du corps qui dit « je peux plus, c'est trop hein. ». C'est par exemple des lésions d'arthrose. Ce sont des lésions cancéreuses, ce sont des maladies inflammatoires généralisées. Là, l'acupuncture fait moins bien, évidemment, que la médecine classique. Elle peut cependant quand même intervenir à titre de médecine complémentaire. Par exemple, dans les nausées qui sont un effet secondaire fréquent des chimiothérapies, eh bien, on peut apporter quand même de l'aide aussi.
D'accord. Et on parle aussi de prévention, en fait, dans la médecine chinoise. Est-ce que l'acupuncture est également une médecine plutôt préventive que curative ou non ?
Alors, c'est vrai que les aspects préventifs de la médecine chinoise sont surtout développés, on va dire, dans les pays asiatiques, où ça fait partie, on va dire, de la conception générale de la médecine. Ici, dans nos pays, les demandes sont moins fréquentes. Les demandes sont nettement moins fréquentes, mais forcément, elles ont du sens, évidemment, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on active les mécanismes de réparation naturelle. Cette seule situation fait que c'est tout à fait cohérent, on va dire, de parler de médecine préventive aussi en acupuncture, bien évidemment.
D'accord. Et est-ce que vos patients ont est-ce qu'ils ont cette vision de prévention ou est-ce qu'en général ils viennent avec leurs problèmes ? Comment est-ce que vous faites avec les gens un peu plus sceptiques face au concept ?
Bon, alors il y a deux questions. Ouais. La première, effectivement, c'est que les gens viennent généralement nous voir, nous, médecins acupuncteurs, parce qu'ils ont tout essayé. Enfin, souvent. Je ne vais pas dire que c'est tout le temps le cas, mais enfin, très souvent, ils ont tout essayé et nous intervenons en dernier recours. Donc là, clairement, on ne va pas leur parler de prévention. En tout cas, pas tout de suite. Voulez-vous me rappeler la deuxième partie de votre question ?
Mais justement, pour ces personnes peut-être un peu plus sceptiques face à l'acupuncture, comment vous les abordez ? Comment est-ce que vous plantez le décor, entre guillemets,
oui,
de l'acupuncture ?
Effectivement. Il n'est pas question de les brusquer. Il n'est pas question de parler à ces personnes de déséquilibre entre le yin et le yang, de théorie des cinq éléments ou des choses comme ça. Ça va jamais marcher. J'essaie d'expliquer le mécanisme par lequel l'aiguille transmet un message au cerveau. Et ça, c'est un message plus scientifique, qui correspond mieux à ce que les gens attendent et connaissent du médecin. Et donc, de cette façon, je leur explique aussi qu'on va essayer d'améliorer la situation sur le plan de leurs symptômes et qu'effectivement, si les choses vont bien, on peut continuer. Si après quelques séances, il n'y a pas d'effet, ce qui peut malheureusement parfois arriver, on arrête. Hein. Mais en général, on décèle quand même. Au-delà du scepticisme, on distingue quand même une espérance que quelque chose marche, évidemment. Hein. Donc,
oui.
C'est bien pour ça que ces patients sont là. Ils ont peut-être été un petit peu poussés dans le dos, mais ils sont là. Donc, c'est qu'ils attendent quand même quelque chose.
Exactement. Et est-ce que cette nouvelle, je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps que vous travaillez en tant qu'acupuncteur ?
Alors, j'ai commencé ma formation d'acupuncture il y a de cela 16 ans. Et donc, au cours, nous étions déjà encouragés, après un an de cours, nous étions déjà encouragés à proposer l'acupuncture à nos patients, disons, pour les douleurs simples. Donc ça fait une bonne quinzaine d'années d'acupuncture, malgré tout, derrière moi.
D'accord. Et est-ce que vous êtes animé par cette nouvelle vision thérapeutique dans votre vie?
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment d'aller plus loin. Ça me permet aussi, vu le temps dont on dispose pour une séance d'acupuncture, ça permet aussi d'aller plus loin dans le dialogue aussi avec le patient. Je ne dirais pas qu'on se transforme un petit peu en psychothérapeute, mais quand même.
Ça se rapproche.
Il y a un petit peu de ça aussi, parfois.
Et ça, cette casquette-là, justement, d'écoute de psy, est-ce que ça vous va? Comment est-ce que vous le vivez?
Elle me convient parfaitement.
Ouais. C'est complémentaire aussi pour vous?
Je crois. Ouais. D'une façon générale, le médecin est censé être quelqu'un qui écoute, et qui écoute sans trop interrompre, du moins au début d'une anamnèse, hein, qui est le joli mot pour ne pas dire interrogatoire.
Ouais.
Donc, le médecin est en principe formé à l'écoute. Maintenant, vous avez des médecins qui écoutent un petit peu plus et d'autres un petit peu, voire beaucoup moins, malheureusement.
Et on va parler justement de ces qualités nécessaires pour être un bon médecin, un bon acupuncteur. On interrompt avec une petite pause musicale, Beautiful That Way de Noah. On se retrouve après la musique.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Life that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Transmission, Isabelle de Mailleux.
Alors, c'était Beautiful That Way de Noah. On est dans l'émission Transmission sur RCF avec le docteur Thierry Guillemot. Alors, on a écouté cette magnifique chanson. En quoi est-ce qu'elle vous parle ou vous inspire?
Mais je dirais qu'elle me donne le frisson à chaque fois que je l'entends. Le titre de la chanson, La Vita est belle, là, c'est déjà tout un programme. C'est fondamentalement ce que je crois personnellement. La musique est envoûtante, je l'ai dit, mais la voix aussi, la voix de Noah, qui porte ce message d'espoir dans la plus noire des noirceurs. Quand on sait que, bien sûr, cette chanson a été écrite pour le film, ou à la suite du film La Vita è Bella. Et donc elle a mis des paroles dessus qui sont juste tout à fait parfaites.
Bouleversantes, émouvantes, touchantes.
Absolument, ouais.
Et on parle aussi d'émotion, on parlait aussi de qualité tout à l'heure nécessaire pour donner des bons soins. Il y a aussi les valeurs. Quelles sont les valeurs que vous mettez au quotidien dans votre travail et qui sont importantes pour vous ?
Mais je pense que la première chose, c'est l'écoute. C'est vraiment remettre le patient au centre du processus. Lorsqu'il est question de prendre éventuellement des décisions difficiles, par exemple dans la vie finissante, c'est vraiment important qu'il s'agisse du patient qui décide de ce qui est bon pour lui et non pas de la famille ou du médecin. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel dans le travail de médecine au quotidien.
Est-ce que c'est facile justement de respecter la volonté du patient et avoir sa casquette de thérapeute parfois en ayant une idée du chemin à suivre, que ce soit au niveau des soins ou au niveau de la qualité de vie, etc. Et en même temps tenir compte de la volonté du patient qui n'est peut-être pas dans la même lignée, sur la même longueur d'onde?
Oui, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais dès lors que l'idée est de mettre le patient au centre du processus, je pense que c'est quand même faisable. Le patient a quand même besoin d'être informé. Le rôle du médecin, c'est d'expliquer dans des termes accessibles par le patient de ce dont il s'agit. Une fois qu'il sait, d'autres questions vont peut-être venir à lui, et c'est au médecin d'y répondre, de tenter d'y répondre. Et une fois tous ces éléments intégrés, c'est lui qui prend la décision. S'il a besoin d'aide dans la prise de décision, on peut lui suggérer. Mais je prends l'exemple d'une intervention difficile ou d'une intervention risquée. Ça, c'est probablement la situation peut-être un peu la plus casse-cou qui puisse exister. Pour le médecin, comme aussi pour le patient, bien entendu, hein, en fonction de ce que l'un et l'autre pensent, redoutent. On ne peut jamais promettre un résultat à 100%, ce serait trop beau. On ne peut jamais dire qu'une opération ne connaîtra pas de complications, même les plus rares, ou un médicament, etc. Donc, c'est toujours un échange entre deux personnes. Et à un certain moment, il n'y a peut-être plus de patients et de médecins, mais il y a deux personnes qui se rencontrent. Voilà.
Deux humains. Et j'imagine que le patient se sent aussi si la personne en face d'elle est connectée avec ce qu'il vit. Et en effet, on n'est pas des robots, donc on a aussi des émotions, des sentiments. Est-ce que vous, justement, pendant votre carrière, est-ce que vous avez rencontré une situation vraiment difficile qui vous a marqué ?
Oui, j'en ai rencontré plusieurs. Ce sont effectivement des moments très, très, très prenants, bien sûr. J'ai été amené à pratiquer, à la demande expresse de la personne, une euthanasie. Et je vous assure que c'est quelque chose de vraiment très, très lourd et difficile, je dirais presque à vivre. J'en parle avec beaucoup de, comment dirais-je, de difficultés malgré tout, parce que sans cesse, on peut revenir sur est-ce que c'était la bonne décision pour cette personne, se rassurer en disant oui, c'est elle qui le voulait, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour d'abord entendre sa souffrance, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui proposer d'autres pistes aussi, hein, comme les soins palliatifs, etc. Mmh. Mais il y a des situations où précisément, il faut s'en remettre à la volonté expresse de la personne. Nous avons la chance en Belgique de disposer d'une loi qui permet cet ultime accompagnement de son patient.
Et comment vous, est-ce que vous trouvez votre équilibre justement avec les situations difficiles comme celle-ci que vous pouvez vivre et en même temps, après vous, votre vie de thérapeute, votre vie d'homme, mari, etc., papa, je pense, vous êtes
bien
papa
sûr,
de
oui,
plusieurs
oui,
enfants. Comment est-ce qu'on continue dans ces cas-là? Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien pour trouver cet équilibre?
Eh bien, je pense que même si on reste encore médecin sous sa douche, comme disent certains, il n'y a rien à faire. Il y a un moment où il faut pouvoir se déconnecter, bien entendu. On ne peut pas vivre 24 heures sur 24 en ayant telle ou telle préoccupation à l'esprit, parce que sinon on ne vit plus, ou on vit à moitié, on va dire. J'ai plusieurs moyens, en fait. D'abord, j'ai la rencontre avec ma femme aussi.
Hein. Qui est présente aujourd'hui en studio, qui nous écoute,
voilà.
Qui nous assiste.
Absolument. J'ai l'activité physique aussi, qui me fait énormément de bien. Nous pratiquons le vélo régulièrement. J'aime jouer au tennis. Donc, ça me détend beaucoup. Je pratique un peu la guitare. Et donc, je me délasse de cette façon-là. Et c'est pour moi une véritable méditation.
Hein.
Ouais. De jouer de la guitare, je peux commencer et ne pas voir le temps passer.
Et pour voilà. Vous, est-ce que c'est important justement de pouvoir avoir des moments comme ça de déconnexion totale?
C'est essentiel, c'est le meilleur moyen de se ressourcer finalement, hein, de pouvoir... au fond, je crois qu'un médecin, ça réfléchit beaucoup. Il n'y a pas que les médecins qui réfléchissent.
Oui, c'est ça.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même très, très, très habité par,
par
les préoccupations, bien entendu, les conséquences de nos décisions. Et donc, c'est évidemment essentiel de pouvoir se libérer l'esprit autant que possible. La rencontre avec la nature, des choses comme ça, c'est très important.
Et vous dites que vous êtes fort préoccupé. Comment est-ce que vos confrères généralistes ont réagi quand vous leur avez dit que vous vous tournez plus vers l'acupuncture? Quelles ont été les réactions?
Mais ils n'ont pas eu le choix, de toute façon.
Vous avez assumé pleinement et vous étiez convaincu.
Sans aucun problème. Et je pense qu'on me regarde encore, non pas comme un extraterrestre, mais comme le médecin que je suis. Et à ce titre, le groupe de médecins dont je fais partie, donc les 2DK groupes, qui sont des groupes de formation continuée en médecine, m'a demandé de faire une petite présentation sur le sujet de l'acupuncture. Donc, je m'adresserai à mes confrères en tant qu'acupuncteur.
En tant qu'acupuncteur.
D'ici peu de temps.
Est-ce que vous pensez que vous les inspirez au passage?
C'est plutôt à eux qu'il faudrait poser la question.
Après votre intervention.
Oui.
Est-ce que c'était une vocation pour vous de devenir médecin? Est-ce que c'était un rêve d'enfant?
Alors, pas du tout. Pas du tout. Je me souviens très bien que quand j'avais 17-18 ans, le moment du choix des études... J'avais vaguement évoqué la médecine, mais sans plus. Et je n'ai pas peur de dire que j'ai été influencé, même profondément influencé, par un de mes professeurs donc au collège qui me disait « Tiens, je te verrais bien médecin ». Et du coup, que quelqu'un d'autre me le dise, ça m'a fait réfléchir un petit peu plus avant. Et petit à petit, la décision s'est faite. Mais c'est vrai que ça n'a pas été quelque chose, une vocation innée, certainement pas. J'avais tout au plus un oncle qui était médecin. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et puis, les choses sont venues progressivement, évidemment.
Oui, est-ce que le parcours a été difficile ou tout s'est mis de manière naturelle quand il s'agit de, quand on sort des études, etc., lancer son cabinet, se faire une patientèle? Se faire connaître ou travailler dans les hôpitaux?
Ça n'a pas été très facile parce que j'appartiens à une génération où les médecins étaient en pleine situation de pléthore. Et donc, s'installer, planter sa plaque, comme on dit, ou au mur de la maison et commencer une clientèle dans une grande ville comme Bruxelles, dans situation de pléthore, c'était vraiment très difficile. Donc j'ai mangé un petit peu de pain noir au début, effectivement, j'ai dû faire des petits boulots, prise de sang et autres, garde, etc. J'ai même fait un petit peu de traduction d'articles scientifiques et des choses comme ça. Ouais. Et donc enfin, bon, je me suis débrouillé. Et puis petit à petit, ben, finalement, les choses se sont mises en place. Et...
Vous avez trouvé un épanouissement.
Exactement.
Et si jamais demain, vous me donnez les clés de votre cabinet, sachant que je vais reprendre les commandes, qu'est-ce que vous auriez envie de me transmettre ?
J'ai envie de dire aux jeunes médecins que vous êtes que je vous souhaite d'abord beaucoup de bonheur d'une part hein, et beaucoup de courage.
J'allais
aussi,
dire beaucoup de courage, j'imagine.
Oui, mais l'un et l'autre d'une part et d'autre part j'ai envie de vous dire que précisément la meilleure façon d'aider quelqu'un, je pense, c'est en quelque sorte de l'aimer, de se rendre compte que ce qui compte pour lui ou pour elle, c'est de se sentir bien. Et donc, si je peux contribuer de cette manière, par les connaissances que j'ai acquises, par la personne que je suis devenue, si je peux contribuer à ce rééquilibrage, éventuellement à sa guérison, alors j'aurai l'impression d'avoir fait du bon boulot.
Un bon job.
Voilà, exactement.
Donc osons l'authenticité dans nos relations thérapeutiques ou dans la vie. Ben, un tout grand merci, l'émission touche déjà à sa fin, mais merci Thierry Guilmaud d'avoir été présent parmi nous.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Transmission. Une émission proposée par Isabelle Demayeux.